Sans plus tarder, accueillons notre ami Guy Boucher. Bien le bonsoir, Guy.
Bonsoir.
T'es-tu un preneur de chance, toi, Guy? T'as-tu un petit côté gambler? Ben, je sais pas si dans, tu peux l'avoir dans la vie en jouant aux cartes puis pas l'avoir pendant tout au hockey dans la gestion d'une équipe, mais c'est une question out of the blue, comme dirait l'autre, Guy.
Ben, gambler, oui et non. Gambler calculé. Gambler juste pour gambler, absolument pas. Sauf que oui, je suis gambler dans la vie parce que ma vie a été bâtie par... j'ai toujours osé puis persévéré, même je dirais oser échouer puis persévérer. Ah. C'est vraiment l'équation de ma vie, ça. Fait que oui, mais je crois en des gambles qui sont calculés avec l'information qui permet de croire qu'il y a une possibilité de succès, mais c'est surtout jamais au dépens du reste du groupe. Alors, j'ai fait ma carrière, moi, depuis 25 ans, j'ai fait ma carrière avec des projets, avec des joueurs que d'autres ne voulaient pas, avec des joueurs qui n'ont pas eu de succès ailleurs. Puis moi, j'adorais ça les prendre, puis travailler, puis cheminer avec eux. Ça, je te dirais, c'est mon vrai salaire.
C'est valorisant quand tu réussis un projet comme ça, Guy.
Ben oui, absolument. Ce que j'aime dans la vie, c'est de mobiliser les gens, c'est de participer au développement de quelqu'un, c'est de prendre quelqu'un qui habituellement, je crois aux gens plus qu'ils croient eux-mêmes. C'est ce qui fait qu'à la longue, les gens finissent par croire eux-mêmes autour de moi. Alors, c'est pour ça que je coach, c'est pour ça que je suis entraîneur, c'est pour ça que...
Est-ce que je devine, Guy, que tu serais tenté d'entreprendre un projet comme Evander Kane qui n'est plus une recrue? Ou tu serais... c'est sûr qu'on n'a pas toute l'info. Il faut s'entendre sur le fait qu'on n'a pas toute l'info, là, mais...
Là, je te trouve bon, Mario, parce que c'est en plein ça. C'est que ça dépend tout le temps de l'information que tu as.
Oui.
Dans le junior, à Drummondville, on a pris des joueurs qui s'étaient fait mettre dehors de trois places, mais on avait une information qui nous permettait de croire qu'avec des individus qu'on connaissait, qui étaient... qui avait été dans les mêmes environnements que ces individus-là, qui me laissaient croire qu'il y avait quand même une limite. T'sais, à un moment donné, il faut que tu fasses attention. Tu ne veux pas faire couler ton bateau parce que tu essaies de sauver une personne. Quand tu penses que c'est plus probable que ça arrive, alors tu ne touches pas à ça. Alors, mais dans le cas d'Evander King, moi, je l'ai eu au moins de 20 ans. Il était tout jeune. Ouais, il était tout jeune. C'était quelqu'un qui était ce qu'on appelle un underage en anglais, donc il était un an plus jeune qu'ils autres. À ce moment-là, évidemment, on ne connaissait pas vraiment. Nos recruteurs avaient de la bonne information sur lui. Puis, ouais, il y avait, à ce moment-là, il n'y avait pas de raison de croire qu'il y avait des problèmes. Par contre, c'est sûr que si on regarde ça de l'extérieur, c'est pas juste à San Jose qu'il y a eu des problèmes. Il y en a eu aussi. Il y en a eu aussi avant ça avec Winnipeg, puis il y a eu des
Buffalo.
Problèmes qui se sont... Oui, Buffalo, même chose. Et ça s'est révélé publiquement, mais habituellement, quand les choses se révèlent publiquement, de mon expérience, c'est qu'il y a d'autres choses de cachées aussi. Alors, dans son cas, lui, je ne pourrais pas avoir l'information pour dire « je vais prendre une chance ».
Je comprends.
Mais c'est certain que quand ça fait plusieurs endroits et que ça persiste, c'est sûr que c'est un red flag. On ne se rend pas demander. Mais comme je dis, j'ai pris des individus, j'ai pris des joueurs que personne ne voulait, puis il y en a qui ont été repêchés, puis il y en a qui ont scoré 50 buts, puis tu sais, des histoires tout à fait exceptionnelles.
Tu ferais ton enquête. Si tu étais placé dans la situation de Ken Holland, comme lui l'a fait, puis lui, j'imagine que là, il va à chasse aux infos, il essaie de tout ramasser ce qu'il peut, puis...
Exactement. Exactement. Comme on a parlé hier, tu sais, quelqu'un qui sort de prison.
Ben oui.
Moi, j'ai pas de problème d'engager quelqu'un qui sort de prison en connaissant c'est qui la personne, c'est quoi, tu sais, c'est d'où ce qui vient, c'est quoi l'erreur, puis comment il a cheminé à l'intérieur et tout ça. Aucun problème. Moi, des deuxièmes, des troisièmes chances, écoute, j'ai fait ma vie, ma carrière avec ça, avec des individus autour de moi, puis j'avoue que, tu sais, dans la vie, quand on aime juste ceux qu'on aime, ben, on fait pas grand-chose de différent des autres. Tu sais, les parents aiment leurs enfants, c'est facile, ça. On aime nos frères et sœurs, c'est facile, ça. Aimer nos amis, c'est facile. Et aimer les gens qu'on aime moins, qui sont plus durs à aimer, c'est ce qui va faire la différence la plupart du temps entre ceux qui vont réussir des choses extraordinaires et d'autres moins. Alors, quand tu es dirigeant, tu n'as pas le choix de sonder des cas plus difficiles, mais pas nécessairement des cas difficiles dans le sens que là, on parle de mannequin, mais moi, je peux parler de cas difficiles dans le sens que des individus qui sont en grand manque de confiance, d'autres individus, sans avoir fait des erreurs, ont pas bien cheminé, ont eu des manques à une période ou ont des périodes difficiles personnelles. C'était tous des humains. Puis là où je rejoins M. Holland, c'est justement sur le fait qu'on est tous des humains et qu'on a tous eu des problèmes à un moment donné ou à un autre. On a tous besoin d'une deuxième, troisième, quatrième chance. Et c'est sûr qu'on a tendance à fustiger tout le monde quand on voit quelque chose qui soit inacceptable ou des erreurs majeures. Mais tu sais, si on se regarde sur nous-mêmes dans le miroir,
il y a une vieille phrase, Jean-Guy, que celui qui n'a pas.
C'est celui qui n'a pas péché lance la première pierre. Puis, tu sais, on a tous des choses cachées aussi. Il y a des choses que les gens connaissent de tout le monde, on a des choses cachées, mais on est tous pas fiers de certaines choses. Alors pour moi,
t'as de l'ouverture d'esprit. Puis j'aime ça.
Absolument.
Puis j'adore ça.
Absolument, parce que je pense que c'est quand on devient catégorique que des fois on passe à côté des plus belles histoires. Alors, moi, comme j'ai dit hier, je souhaite à Evander King qu'il remette sa vie sur pied, puis qu'il soit en mesure de faire quelque chose de bien avec ce qui reste. Parce que tout ce qui est dans le passé, c'est passé. On ne peut plus rien y faire maintenant. Ouais. À partir de maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on doit apprendre, ce qu'on doit faire pour cheminer? Moi, c'est ça qui m'intéresse.
Moi, en tout cas, j'aime ton discours là-dessus, puis j'aime ton ouverture. Mais en même temps, pas en contradiction à ce qu'on vient de dire, puisque tu viens de dire. Est-ce que Cam Norlin, tu penses, est en train de se rendre compte, un gars qui a eu beaucoup de succès pendant des années à Détroit, puis du succès, ça se bâtit pas en quelques années nécessairement, difficile de maintenir de la stabilité dans des marchés sous haute pression où on veut des résultats avant quelques années. Il y a quand même eu une belle tradition d'hockey Edmonton. Tu penses-tu que Cam Norlin se rend compte, ça c'est moi qui l'affirme, que c'est peut-être plus difficile de diriger un club ou de bâtir un club gagnant au Canada? Est-ce que c'est une somme d'incompétence qui fait qu'il n'y a aucune équipe canadienne qui a remporté la Coupe cette année depuis 93 ou fiscalité, là en plus depuis deux ans, COVID, les familles, tu sais, prends juste la famille de Petrie, il est revenu tout seul pour la balance de la saison. Penses-tu que ça va devenir encore même plus difficile pour les équipes canadiennes? Est-ce que Haaland réalise ça selon toi?
Ben, écoute, je pense que Haaland, a définitivement été un architecte de ce qui s'est passé à Détroit, mais comme à Détroit, il s'aperçoit qu'il n'y a pas de gardien de but. Tu peux pas faire grand-chose.
C'est vrai.
L'autre chose aussi, c'est que, tu sais, à Détroit, il s'est quand même retrouvé, de par ses décisions à lui aussi, mais il s'est quand même retrouvé, peut-être, la dernière grande dynastie du hockey. Peut-être que Tempa est en train d'égaler ça tranquillement s'il continue, mais, tu sais, les années 90, c'est Détroit, c'est la dynastie qui a suivi finalement celle des Oilers.
Oui.
Il y a à peu près, je pense, 11 joueurs, si je ne me trompe pas, là, qui vont être dans le temps de la renommée, qui faisaient partie des équipes-là. Alors, c'est certain qu'ils n'ont pas ça à Edmonton. Puis honnêtement, lui, hérite de plusieurs années de d'autres individus qui ont pris d'autres décisions avant lui. Alors, il faut faire attention de tout mettre le blâme sur elle. Mais oui, de toute façon, peu importe c'est où dans la Ligue nationale, c'est tellement difficile. Il y a plusieurs équipes, il y a toutes sortes de contraintes. Et quand on regarde au Canada, tu as absolument raison. Il faut se rendre à l'évidence qu'il y a le côté fiscal qui n'est pas nécessairement attirant pour les joueurs. Il y a le côté, des fois, température, qui n'est pas comparativement. T'sais, pour nous, Canadiens, c'est normal, mais t'sais, quelqu'un qui vient de l'Arizona. Je pense pas que je sois attiré par le moins 35 là, avec la masse de cuir d'en face pour pas qu'on craque. Tu sais, à un moment donné, c'est froid, non, c'est pas sûr. À peu près. Là.
Quand t'as pas grandi là-dedans, là, c'est sûr que c'est une adaptation. Il y en a qui ont grandi là-dedans puis qui ont hâte d'aller passer l'hiver dans le sud.
Ben, surtout quand t'as goûté, j'ai goûté, moi j'étais un gars de froid, j'étais un gars de bois, j'étais un gars de dehors, puis quand j'étais à la Tampa, je peux te dire qu'après un mois, là. Tu changes vite d'opinion parce que t'es bien. Mais écoute, moi, ce que je pense, c'est que évidemment, oui, t'as des côtés canadiens. Oui, l'histoire de la COVID, là, regarde, ça c'est clair que ça va nuire à la destination des joueurs autonomes. Ça, c'est certain. Ça peut pas faire autrement, là. Je veux dire, pourquoi tu choisirais de t'en aller dans une situation qui est difficile à gérer alors que tu peux être dans un État, par exemple, comme en Floride, où il n'y a pas. Il y a pratiquement pas de mesure. C'est sûr que...
Ça clash.
C'est sûr que ça clash. Alors, ça peut pas aider, même si on a raison, même si c'est la chose à faire médicalement, puis ainsi de suite.
Ouais.
C'est pas nécessairement ce que les gens vont choisir d'aller se cloîtrer, c'est normal. Alors oui, mais je pense que c'est pas une question du Canada. Il y a des marchés particuliers. Edmonton, c'est un marché particulier qui est différent de celui de Winnipeg, qui va être différent de d'autres endroits. Ouais, alors, si on parle de Toronto, c'est pas la même chose.
Ils ont goûté à la victoire, Edmonton, contrairement à Toronto et Winnipeg, qui n'ont pas gagné la Coupe de 67. Winnipeg l'a jamais gagné. Hein. Je sais pas si c'est ça que tu faisais allusion,
Moi, je pense que Edmonton, évidemment, il y a le côté gardien de but. Ça, c'est le début et la fin de tout. Mais il y a aussi le deuxième élément qui est le plus important pour moi, c'est les intangibles, c'est les leaderships. C'est comment cette organisation s'est bâtie-là avec les années. Et ça a été un manque grandiose qui a fait en sorte qu'on a vu un exemple parfait de ramasser une tonne de joueurs de première ronde, puis de talent, puis ça mène nulle part en à peu près 10-12 ans. Et pourquoi? Mais parce que je me tue à le dire, c'est que tu peux, même si tu ramasses du talent, si c'est pas ramifié tout ça ensemble par des intangibles,
quelque chose d'inspirant.
C'est pas juste inspirant.
Mais permets-moi de te couper, Guy, pour t'amener sur McDavid, justement. Je voulais te faire parler de McDavid, mais j'ai pas sursauté parce que dans le fond, ça n'avait pas été abordé en nom, mais Daniel faisait allusion à Marie-Philippe Poulin qui rend les autres meilleurs. On a dévoilé l'équipe canadienne féminine aujourd'hui. Puis elle a dévié sur McDavid en disant comme. En sous-entendant, puis elle s'est expliquée que c'est ça qui avait amélioré. Benoît Brunet a déjà apporté cet élément-là, puis j'étais curieux d'avoir ta lecture, parce que tu sais, tout le monde est d'accord pour dire que McDavid est peut-être, je sais pas si c'est le meilleur joueur de la Ligue, mais certainement peut-être le plus spectaculaire, sauf que, puis je le dis pas de façon à le déprécier, mais c'est souvent des élans pour les faits saillants, des one-man shows, mais rend-il les autres meilleurs?
Bon, écoute, c'est sûr que c'est un sport d'équipe, donc il y a des assistances... Il réussit à faire des jeux, à finir le jeu des autres et tout ça. Donc, ce serait faux de dire qu'il rend jamais les autres meilleurs. C'est impossible. Quand on dit ça, c'est souvent parce que, bon, c'est un joueur qui est capable d'en faire beaucoup par lui-même et qui va des fois choisir de le faire par lui-même plutôt que de le faire par les autres. Par exemple, un gars comme Crosby va plus avoir la réputation de rendre les autres meilleurs. Un gars comme Jonathan Toews, un gars comme Bergeron va avoir la réputation. Comparativement à, par exemple, un Pasternak. Pasternak va être celui qui va finir les jeux. Alors, Bergeron va rendre les autres meilleurs. Il va compenser pour les lacunes défensives de ses alliés. Il va faire en sorte que c'est lui qui va gagner les autres jeux. Donc, on a la rondelle, donc ça rend ton équipe meilleure. Ça rend... Alors, c'est clair que tu as des types d'individus, que c'est l'évidence même. Leur jeu, leur attitude, leur façon d'être va rendre les autres meilleurs sur une base constante. Puis tu as d'autres individus que des fois c'est un mix. Et moi, je pense que McDavid, c'est un mix. Je suis d'accord avec
Daniel.
Puis Daniel Zamajo, que c'est quelqu'un qui va être capable de lui-même de faire des jeux spectaculaires. C'est le joueur le plus spectaculaire de la Ligue nationale, c'est clair, au monde. Mais c'est sûr que c'est un joueur qui peut continuer de s'améliorer pour rendre les autres meilleurs.
Oui, oui. Comment il va faire ça, Guy? Qu'est-ce qui peut amener dans son jeu, dans son attitude, qui va faire en sorte qu'autour de lui, tout le monde va grimper d'une coche ou deux, là?
Ben, écoute, c'est sûr que, tu sais, je pense que ça revient un petit peu au propos de tu sais, il était fustigé à ce moment-là, mais les propos de Tortorella, tu sais, quand il disait, tu sais, que c'est du jeu qui doit changer, c'est un peu ça qu'il voulait dire. Ce qu'il voulait dire, c'est que son jeu doit s'améliorer dans les deux sens de la patinoire. Pourquoi? Parce que c'est ce qui fait gagner dans les séries, c'est ce qui inspire le reste de ton équipe. C'est que
le fait saillant du but incroyable inspire les téléspectateurs, puis on va le regarder, puis nos enfants regardent ça sur nos cellulaires 20 fois. Mais c'est pas nécessairement ce qui va inspirer un de tes coéquipiers à acheter tête première en avant d'une shot qui va changer le résultat d'un match en série.
Ben, c'est justement, puis moi je le dis régulièrement, le talent impressionne, c'est clair. T'sais, les gens vont payer pour aller voir du talent de haut niveau. C'est clair, sauf que le talent n'inspire pas. Puis pourquoi? Parce que pour être inspiré, t'sais, si c'était un autre joueur de l'équipe, pour être inspiré, ça doit être des actions qui sont possibles pour le reste de l'équipe. Parce que quand tu as du talent hors norme, comme par exemple un génie comme de musique comme Beethoven, comme par exemple Einstein, mais ces individus-là sont tellement au-dessus du lot en termes de leur talent intellectuel, comme McDavid va être au-dessus du lot en termes de talent, que c'est impressionnant. On n'en revient pas que ces individus-là sont capables de faire ça, mais ouais. Ça ne l'inspire pas. Parce que la définition d'inspirer, c'est d'être capable de te motiver, toi, à suivre. Alors, tu peux pas suivre ce talent-là. Tu peux pas suivre cette qualité de jeu-là puis ces atouts-là. C'est impossible. Alors, t'es pas inspiré, t'es juste impressionné. Pour inspirer, c'est que tu dois avoir des gestes qui font en sorte que les autres veulent te suivre dans tes actions, veulent reproduire tes actions. Donc, c'est exactement ce que t'as dit. C'est des replis défensifs, c'est bloquer des lancers, c'est garder ses présences sur la glace courte pour respecter les autres. C'est le fait que tu vas avoir des changements impeccables. C'est le fait que tu vas être premier à te sacrifier pour l'équipe, à prendre des mises en échec pour être capable de faire progresser le jeu.
Il faut qu'il soit conscient, Guy, c'est de faire sentir les autres meilleurs, dans le fond. T'sais, puis à la limite, même si tu le fais au début en faisant un effort pour le faire, c'est peut-être pas naturel pour un génie comme ça, à sa façon. Je sais pas si c'est naturel, mais il faut qu'il prenne conscience. Puis il y a sûrement quelqu'un qui a déjà parlé de ça, peut-être son agent, un ami, etc.
Ils sont très conscients de ça, mais c'est un cheminement. Il y en a qui l'ont plus tôt. C'est un joueur comme ça qui est tellement talentueux, qui est capable de traverser la glace d'un bout à l'autre sur une base régulière. C'est sûr que sa propension, ça va être de le refaire, mais c'est parce que quand tu arrives dans les games difficiles, dans les matchs en série, les matchs contre les équipes, parce que plus tu arrives dans la saison, plus tu avances dans la saison, moins il y a d'espace, et plus les équipes sont bonnes défensivement, donc vont l'arrêter. Et donc, si on met beaucoup d'emphase sur lui, il est obligé d'utiliser le reste de son monde pour justement envoyer toute l'attention sur les autres pour après ça lui être capable de se démarquer en série. Ça a été le problème d'Ovechkin pendant des années, de toute son équipe qui avait plein de talent mais qui ne gagnait jamais. Ça a été le lot de l'équipe de Tampa qui était plus talentueuse que tout le monde avec des Kucherov et des Stamkos, mais qui ont dû eux aussi apprendre à inspirer leur groupe, à comprendre comment jouer sans espace, comment jouer quand on n'est pas capable de faire de jeu parce que c'est impossible, parce que l'adversaire est trop bon défensivement. Comment faire pour être capable de gagner les matchs 1-0, comment faire pour être à 0-0 pour s'en aller en période supplémentaire parce que, justement, quand on ouvre trop en série, on se fait avoir. Tu sais, c'est toute la maturité qui fait en sorte que ça prend plusieurs années à comprendre ça. Et c'est pour ça que des joueurs comme Kopitar, Taves, les Bergeron et Crosby sont tellement au-dessus du lot, pas juste en termes de talent.
Je pense que McKinnon l'a compris. Penses-tu que McKinnon l'a compris? Casper, il y a un auditeur qui m'écrit un messagerie texte, il me le suggère. Oui. Puis Dan Brière, qui a collaboré avec moi en radio, me disait qu'au début, il n'était pas sûr, mais le temps qu'il était là, il l'a vu virer, là, faire un 180.
Oui? Je suis d'accord. Je pense que McKinnon est vraiment en voie. Puis un autre qui est en voie par ses actions depuis l'année dernière, pas juste depuis cette année, c'est Matthews.
Austin Matthews,
Oui, absolument, qui a vraiment progressé. Tu sais, à un moment donné, les gars sont tannés de perdre, sont tannés de se faire pointer du doigt, sont tannés de se faire critiquer comme quoi ils sont pas des gagnants. Et puis, ils finissent par comprendre, pas parce qu'ils veulent... Il y en a qui veulent pas comprendre, mais il y en a qui comprennent, mais c'est des habitudes. C'est des habitudes de travail, c'est des habitudes. Tu sais, la maturité, c'est avec le temps, c'est avec la répétition, ça vient avec des gens autour de eux qui sont finalement des leaders qui montent le chemin. C'est pour ça que des gars comme Corey Perry, il était sa quatrième ligne du Canadien, des fois se retrouvait sur la 3, mais
il est inspirant.
Ben oui, parce qu'il est inspiré. Pourquoi? Parce qu'il allait payer le prix dans les moments difficiles. Tous les matchs où le Canadien avait besoin de, tu sais, c'était la vie ou la mort, il s'est présenté. Toutes les premières périodes en série, c'était lui. Devant le filet, les coups qu'il mangeait. Écoute, pourquoi c'est inspirant? C'est parce qu'il faisait les choses que tout le monde est capable de faire, mais ça prend du courage pour le faire. Alors ça, c'est pas du talent. C'est ça que je veux dire par la différence entre les choses qui t'impressionnent versus les choses qui inspirent. Oui. Alors, les choses qui inspirent, c'est les choses de courage. Les choses que tout le monde peut faire, mais que ça prend du courage pour le faire, ça prend l'éthique de travail, ça prend de la discipline. Ça, c'est inspirant. Alors, est-ce que McDavid peut s'améliorer? Ben oui, absolument. Comme Matthews devait s'améliorer, comme Ovechkin a dû s'améliorer, mais ces gars-là le font.
Ils vont y arriver. Ben
exactement. Exactement. Des fois, ça prend plus de temps, mais ils sont en voie de le faire.
Hey Guy, je veux te faire entendre quelque chose. Ça reste Edmonton, puis d'ailleurs, on va développer tout à l'heure avec Stéphane Wade sur Edmonton. Je vais te bousculer dans les dernières minutes. On arrive proche de la fin de notre temps, mais je veux vraiment te faire entendre ça. Ken Holland, donc toujours sur Edmonton, il se fait questionner. Tu sais, bon, que tu sais, ça allait bien, puis là, ben, ils sont en spirale vers le bas. Et il se fait poser la question, songes-tu à congédier, changer ton entraîneur? Écoute ça, puis j'aimerais ça, toi qui es entraîneur, je veux dire, tu peux un peu ressentir probablement comment Tippett écoute cette clip-là, Ken Olin, sur cette question-là.
You know, no, I haven't fired a coach mid-season. I don't believe in it, I guess. But it doesn't. I also understand that there are times when possibly it needs to be done or it should be done.
Donc, je traduis pour les auditeurs qui ont plus de difficultés avec l'anglais. Donc, on lui a demandé. Il dit, j'ai jamais remplacé d'entraîneur à la mi-saison. Là, un long silence. Il dit, je pense que je ne crois pas à ça. Et de pas de se rattraper, mais de compléter sa pensée en disant, mais peut-être que des fois, il faut que ça soit fait. Sans dire que là, il faut que ça soit fait, mais t'es dans les souliers de Tippett en ce moment, Guy. Ça fait le comment, tu penses?
Tu fais pas différemment de que tu te ressentais avant.
Non. T'as une ligne directe avec ton DG, puis...
Oui, mais pas juste ça. Si t'es conscient que n'importe quoi peut arriver, je veux dire... Tu sais, faut comprendre une chose, là. C'est qu'à un moment donné... Les gens ont tout le temps avoir tendance à penser que les entraîneurs ont peur de perdre leur boulot. Et la grande majorité du temps, c'est pas nécessairement le cas.
Ils sont soulagés? Non?
Ben, oui, des fois, oui. Des fois, oui. Des fois, tu le veux. Moi, ça m'est arrivé de le vouloir. Oui, des fois, c'est soulagé. Des fois, tu t'en fous complètement parce que tu fais de ton mieux. Alors, tu peux pas faire mieux que ton mieux. Alors, il arrivera ce qui arrivera.
Comme Dom Ducharme cette année, peut-être, je ne sais pas, je dis ça de même. Là.
Pourquoi? Ben, aucune idée, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une business où tu dors pas, mais tu dors pas parce que tu as peur de te faire congédier. En tout cas, moi, dans mon cas, c'était pas ça. Moi, j'ai jamais eu peur de me faire congédier. Tu fais ce que tu as à faire, puis après ça, ils décideront. J'ai jamais voulu étaler mon nombre d'années comme entraîneur. J'ai jamais eu ça dans la tête. Puis j'aurai jamais ça dans la tête parce que moi, je coach aujourd'hui avec ce que j'ai aujourd'hui, avec ce que je peux faire aujourd'hui, puis demain, il va prendre soin de lui-même. Puis garde, si ça dure 10 ans, ça dure 10 ans, puis ça dure un an, ça dure un an. C'est ça, si tu coaches pour sauver ta job, là, tu coaches pas.
Puis faut tu, moi, je comprends. Puis donc, parce faut que tu vives avec, le fait, avec les déclarations de public. Ouais, c'est ça. À partir de ça, t'as raison.
Ben oui, parce que si tu coaches pour sauver ta job, tu ne prendras pas les bonnes décisions, tu n'auras pas le courage, tu vas juste essayer de patcher, tu vas juste essayer de faire plaisir à ton gérant, faire plaisir au public, faire plaisir aux médias, faire plaisir aux joueurs, puis tu ne prendras pas les bonnes décisions. Alors, il faut que tes décisions, tu dois les prendre avec tes connaissances, ton expérience, avec ce que tu as comme information, avec ce que tu as comme courage pour faire ce que tu ferais, peu importe. Si c'est ta job est en jeu ou non. Parce que si tu es prêt à le faire ça, tu ne coacheras jamais dans le national parce que c'est de la pression constante de tous les jours. Tu as toujours des mauvaises passes, tu as toujours des mauvais commentaires, tu as toujours des approches médiatiques partisanes de joueurs, d'agents, de ton gérant, de ton propriétaire. Écoute, nomme-en, là, ça ne finit plus. Alors, si tu t'attardes à ça, là, tu ne seras jamais capable d'évoluer dans ce milieu-là. C'est impossible. Ça, c'est pour les partisans et les médias. C'est le soap opera du hockey. Alors, si toi, tu t'attardes au soap opera du hockey, tu n'as pas d'affaires à coacher à ce niveau-là.
Voilà l'opinion de Guy Boucher sur ce sujet-là. Puis Guy, en terminant, j'avais vraiment les yeux plus grands que la panse. Là. J'avais des sujets pour faire 3 heures, mais en 40... non, mais je te le dis, tu sais, pour vrai, là, ben, tu sais, quand on aime ça, puis que, tu sais, il y en a tellement de sujets. D'ailleurs, merci les gens qui écrivent en ce moment pour l'appréciation. En 30-40 secondes, puis je vais aborder la controverse Ron Extall et Bobby Clarke. Je vais te tenir loin de ça. Je pense pas que tu vas en être fâché, à moins que tu y tiennes absolument, mais je voulais surtout, parce que moi, je voulais te parler de Kel McCarr, puis parce que tu as coaché Eric Carlson, j'en parle avec Guillaume Latendresse qui a joué avec Eric Carlson. Est-ce que tu penses que McCarr est meilleur que Carlson ou va le devenir 30 secondes, 40 secondes à peu près pour répondre, Guy?
Ah, ils ont les mêmes atouts. Ils ont le même genre d'atouts en termes de facilité. Là, c'est du talent, de la vision, de la vitesse, des qualités physiques extraordinaires. Écoute, c'est très semblable maintenant. Ils sont pas passés par la même place, ils ont pas eu les mêmes coéquipiers, ils sont pas vraiment, tu sais, ils jouent ensemble maintenant à la même époque, mais ils n'ont pas le même âge. Alors, j'aime pas ça comparer, mais c'est clair qu'on parle d'un joueur là, qui a les mêmes atouts de base. Là,
ouais. Il est bon. Il est bon.
Hein. Il est exceptionnel. Il n'est pas juste bon, il est exceptionnel.
Ouais, tu prends ça dans ton club sans trop hésiter. Ça, c'est pas de te donner une deuxième chance, c'est de te donner une chance de plus.
Ah, ça, c'est certain.
Guy, merci. Bonne fin de soirée, mon cher.
Merci, ça me fait plaisir. Bonsoir.
Merci, Guy. Bye-bye. Dans un instant, Stéphane White. On va prendre une chance avec Steph. Ouais, c'est... ouais, ouais, on va y en donner une. On revient. Puis on va revenir sur l'affaire de Philadelphie. Je t'ai dit que Bobby, c'est pas gêné. On sait qu'il est incapable de casser une jambe avec son hockey, mais ça a l'air que... En tout cas, il a décidé d'éplucher son ancien partenaire, Ron Extall, aujourd'hui publiquement. On revient tout de suite.